Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
À 8h30, dans le bureau de Par Jupiter, Charline regarde le documentaire de Serge Bramley sur Léonard de Vinci.
Incroyable, cet homme, mon Dieu, un génie, l'homme absolu, il savait tout faire, tout.
Salut Charline.
Peintre, écrivain, dessinateur, inventeur.
Tu parles de moi?
Non, de Vinci.
Ah, le gars qui a inventé les parkings.
Non, Léonard de Vinci.
Ah, mais toi aussi, tu sais, hein, tous les jours, tu réinventes la radio,
oui.
Charline.
Oui, c'est vrai, mais je pense que je peux en faire plus.
On a quand même l'impression que t'en fais déjà suffisamment.
Mais on n'en fait jamais assez. Regarde, je touche un petit peu ma bille en technique, et la plupart du temps, il suffit de pousser trois boutons.
Ah bah, ils vont être contents, les techos.
La vidéo, j'ai un sens inné de la réalisation.
Mais enfin, quand même, ce sont des emploi, Charline, il y a des gens là derrière.
Et bien payé en plus.
Ah oui. Bah justement, voilà, faut optimiser un petit peu tout ça.
Depuis quand il est de droit?
Je sais pas.
Et puis notre réalisateur, là, est-ce qu'il est vraiment nécessaire finalement? Est-ce qu'il apporte une plus-value à l'émission?
Je suis choqué.
Ouais. Et les attachés de production? Mais téléphoner à des attachés de presse, mais moi aussi je sais faire.
Enfin, ils font pas que ça.
Non, ça va, regarder des films, ça va, c'est sympa. Faire du copier-coller de Wikipédia, là, ça me semble accessible quand même.
Enfin, mais Charline, mais si tu fais tout ça, qui c'est qui va prendre ta place?
Eh ouais.
Ah bah oui, parce que faire l'hélicoptère avec son bras pour lancer un disque, nous aussi on sait faire.
Eh oui, et dire 8, hein, 8. Ça, on sait faire,
bah
on sait dire ça.
Oui.
Vous voulez dire que je serai jamais Léonard de Vinci?
Non. Et tu resteras Charline de Winter.
Et c'est déjà pas mal.
Bonjour la France Inter, vous écoutez la start-up de la radio publique, dont voici la devise du jour: le selfie est le miroir du cœur.
C'est beau.
Voici le sommaire. La Tunisie a un nouveau président, Kais Saied, surnommé Robocop pour son élocution monocorde. Il soulève pourtant l'enthousiasme des jeunes qui ont fêté sa victoire. Mais saura-t-il répondre aux aspirations de cette jeunesse?
Président, je pourrais prêter ton argent avec les pauvres, comme ça ils peuvent s'acheter tout ce qu'ils veulent.
L'Italie ne prêtera pas l'homme de Vitruve à la France pour l'exposition de Vinci au Louvre. Les Italiens veulent qu'il reste en Italie. Pourquoi? Parce que Léonard est italien? Oui, à voir. Et par crainte d'abîmer l'œuvre.
Sa place est dans un musée. La tienne aussi.
Le théâtre du Châtelet se lance dans la parfumerie avec une fragrance qui rappelle le parfum de la salle. Il est désormais possible d'acheter à la billetterie 2 places de spectacle et 200 ml de flotte à 120 boules.
Mais c'est quoi? C'est pas un truc de bobo qui respecte la couche d'ozone? Parce que moi, j'en ai rien à foutre de la couche d'ozone.
Alex, qui forme la triplette du jour?
Oh là là, une toute belle équipe, évidemment, ce lundi à 17h20. Un jeune homme qui a fêté son anniversaire la semaine dernière et qui a eu la bonne idée d'inviter Guillaume Meurice. Il a donc un an de plus et 12 amis en moins. Bonjour Hippolyte Girardot.
Bonjour.
De quoi on va parler?
Du voile et de la frite.
Très bien, très bon package. À 17h30, celui qu'il ne faut ni inviter à un anniversaire, ni à un mariage, encore moins à une soirée échangiste, puisque tout le monde voudrait l'échanger, c'est vous Guillaume Meurice.
Bonjour à tous et pardon Hippolyte. Eh ben, je vais vous parler de l'incroyable week-end pour Xavier Dupont de Ligonnès. Je suis allé voir les Français qui sont absolument passionnés.
Le drame, l'assassinat, ça me touche pas. Mais quelqu'un qui disparaît pendant aussi longtemps, ça c'est fabuleux.
Et on s'en fout des morts, mais le gars est balèze quand même en cavale, et ça c'est chouette.
Et à 17h40, celle qui en revanche s'entend avec tout le monde lors des soirées d'anniversaire, la dernière fois passé des heures à discuter avec un moine bénédictin, un certain Dom Pérignon. C'est vous, Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour tout le monde.
De quoi on parle?
D'un autre fait divers.
Oh là là,
très bizarre.
Suspect.
Et voici celui qui va transformer l'open space en atelier d'artiste. Vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes...
Serge Brably, bonsoir. Yes. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek...
Par Jupiter.
Bonsoir Serge Bramley. D'abord, qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes pas Xavier Dupont de Ligonnès?
D'après les Écossais, il y aurait un doute.
Très bien. Bonne réponse, donc on peut entamer la discussion. Serge Bramley, vous êtes l'auteur d'une biographie de Léonard de Vinci qui fait autorité, traduite et publiée dans de nombreux pays, rééditée et augmentée. La toute dernière édition est désormais disponible, 640 pages, qui s'appelle Léonard de Vinci, une biographie parue chez Jean-Claude Lattès. Il y a aussi bien sûr très bientôt l'exposition, la grande exposition Léonard de Vinci, et sur la chaîne Histoire le 24 octobre à 20h40, donc en première partie de soirée, votre documentaire Léonard de Vinci, l'homme universel. Serge Bramley, quand on est biographe de Léonard de Vinci, qu'on vient de réaugmenter cette biographie de 100 pages pour arriver à 640 pages, d'être un spécialiste comme vous l'êtes, qu'est-ce qu'on choisit de raconter? quand on a 1h30 en image, quel axe vous avez choisi ?
Essayer de faire le contraire de ce que qu'on fait par ailleurs. On est dans une époque de spécialisation, alors on vous découpe Léonard en facettes, Léonard architecte, Léonard peintre, Léonard ingénieur, etc. L'idée, c'était au contraire d'essayer de montrer l'homme qui a pu faire tout ça et pour qui ça ne présentait pas beaucoup de difficultés. Il lui-même disait il est facile de devenir universel et il expliquait comment. Donc j'ai essayé de remettre tout ça en forme pour qu'il n'y ait pas juste un diamant, ça a des facettes, mais qu'on voit le diamant et pas les facettes.
L'idée, c'est que si on part de zéro, en 1h30, on a déjà bien avancé sur Léonard de Vinci dans son entièreté.
C'est vous qui l'avez
dit. Moi, je partais de 0,5, mais j'ai cette impression-là. Aujourd'hui, je peux te tenir une converse.
Oui,
donc, on est content.
Racontez les ratages aussi. Il y a des choses qui n'ont pas abouti.
Il y a des choses... Léonard, c'est compliqué parce que l'ambition est tellement haute qu'effectivement, tout pouvait pas marcher. La politique de l'époque était tellement complexe et tellement mouvementée que ça a aussi arrêté beaucoup de projets. Mais pas plus que Michel-Ange n'a jamais pu terminer le tombeau de Jules II parce que Jules II est mort et que son successeur voulait pas payer. Léonard, c'est un petit peu la même chose. Son grand cheval, cette sculpture qui a émerveillé toute la Renaissance, c'était un cheval géant avec le socle, machin, ça faisait à peu près 6 étages de haut. Quelque chose qu'on n'a jamais refaite d'ailleurs depuis. Les Français ont attaqué l'Italie, la guerre, et le bronze qui devait servir à la statue a terminé en canon.
Vous expliquez qu'il aurait pu devenir notaire.
Est-ce que c'est un coup de chance pour nous ? Pour lui, je ne sais pas. Il appartient à une dynastie de notaires. On est notaire de père en fils chez les Vinci. Sauf son grand-père. Et sauf lui, parce que, pour une raison très simple, c'est qu'il était un enfant illégitime, bâtard, et que les enfants légitimes n'avaient pas le droit d'aller à l'université à l'époque. Il pouvait devenir pape, il pouvait devenir roi, il y en a eu, mais pas notaire.
Serge Bramly, à quel moment on se dit, je vais faire la bio, je vais m'attaquer à la bio du plus grand génie, peut-être de tous les temps, qui en plus est mort il y a 500 ans. Ça nous paraît vertigineux.
Lorsque j'ai commencé, d'abord, il n'y avait pratiquement pas de biographie récente. Et honnêtement, s'il y en avait une, je serais peut-être contenté de la lire. Donc, si je me suis lancé là-dedans contre l'avis de tout le monde, il ne faut pas Léonard rend fou, parce qu'il a cette réputation.
Ah oui.
Léonard rend fou, et ce n'est pas entièrement faux d'ailleurs.
Pourquoi ?
Parce que c'est un puits sans fin et qu'il est intimidant. Que c'est une présence paternelle difficile à supporter pour n'importe quel freudien raisonnable.
On a parié avec Hippolyte, nous.
donc vous voyez de quoi je veux parler.
Je l'inviterai plus jamais.
Et c'est vrai que tout le monde m'a donné ça. André Chastel, avec qui je travaillais, m'a dit « Vous êtes fou, allez, faites le Titien, faites Raphaël, qui vous voulez, mais pas Léonard. » Et plus on me disait ça, plus ça m'excitait, forcément.
Et vous continuez, d'ailleurs, puisque
c'est vrai que c'est un puissant, ça ne s'arrête pas.
Oui, vous rééditez. Vous augmentez le livre. Alors, Guillaume Meurice s'intéresse beaucoup à Léonard de Vinci. Guillaume, je vous laisse 2 minutes pour poser une question que vous rêvez de poser.
Oui, j'ai une question sur la bataille d'Anghiari, qui est donc une fresque qui a disparu, qui était à l'époque au Palazzo Vecchio à Florence. Et dans votre documentaire, vous ne mentionnez pas une théorie qui serait qu'elle a été recouverte par Vasari, si je ne m'abuse.
Oh, c'est pas une théorie, c'est une réalité.
Une recherche, en tout cas, oui.
Elle a été recouverte par Vasari parce qu'elle s'abîmait, parce que c'était pas terminé, parce que c'est quand même la salle principale de la République florentine à l'époque, et qu'il fallait bien en faire quelque chose.
Il y a une théorie comme quoi elle n'a pas été détruite, qu'elle n'a pas été recouverte. Alors, et il y a un chercheur, alors le nom je l'ai là, Seracini.
Oui, absolument, oui, je connais. Là, on pense que Vasari n'aurait pas osé détruire une fresque de Vasari. Il faut voir que c'est une salle qui est gigantesque, plus de 20 mètres de long, la fresque au départ. Il devait y avoir sur un mur celle de Léonard, sur le mur opposé, une bataille équivalente peinte par Michel-Ange. Et c'était parti pour devenir l'école du monde, parce qu'on avait quand même les deux plus grands génies qui s'attaquaient en très très grand à des sujets importants. Et Michel-Ange n'a jamais commencé, ou à peine, quelques esquisses. Léonard a eu des problèmes techniques et très vite a abandonné. Mais on a une très bonne idée de ce à quoi elle peut ressembler. Alors Vasari n'a sûrement pas osé détruire, il a probablement mis une couche protectrice et peint par-dessus. Mais en attendant, bon, soit on n'a pas les outils assez perfectionnés pour voir ce qu'il y a en dessous, soit en tout cas personne ne veut détruire.
Les potentiellement la fresque est dessous, quoi. Potentiellement
éventuel.
Mais c'est vrai, elle pourrait être dessous cette fresque.
Elle pourrait être dessous, mais il y aurait des contours. Hein. Je veux dire, je pense pas qu'il y ait. On ne sait pas jusqu'où Léonard est allé. Alors, on le sait un petit peu parce qu'il y a eu des copies. Il y a une chose qui s'appelle la Tavola Doria, qui est une copie assez, assez formidable parce qu'elle est très proche probablement de ce qui restait. Mais il y a surtout un dessin de Rubens.
Oui, ça vous le montrez dans le documentaire.
Ouais. Oui, qui alors lui nous montre, mais il nous montre que la partie centrale de la fresque, c'est-à-dire le combat pour l'étendard, il faut imaginer qu'il y en avait 10 fois plus tout autour.
Vous êtes bien sur France Culture.
Guillaume voulait vérifier si vous étiez un vrai spécialiste de Léonard de Vinci. En tout cas, le documentaire.
C'est une bonne question parce qu'on la cherche comme on cherche, comme le capitaine Haddock cherchait le
doigt. Oui, c'est vrai. Le documentaire, c'est à voir le 24 octobre à 20h40 sur la chaîne Histoire. Léonard de Vinci, l'homme universel. Et si vous voulez vous procurer eh bien la réédition augmentée du livre de Serge Bramly, Léonard de Vinci, une biographie, c'est paru chez Jean-Claude de la Thèse. On va en reparler avec l'homme de Vitruve qui est au centre d'une diplomatie bilatérale entre la France et l'Italie. En attendant, oh, Rachida, il est africain.
Et je suis africain, africain du nord au sud. Et je suis africain, dedans comme dehors. Je suis africain, je n'ai pas le rythme dans la peau. Je suis africain, un albinos afro.
Rachida sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter, il est 17h22. Serge Bramly est notre invité. Le biographe de Léonard de Vinci est avec nous, romancier également. L'un de vos derniers romans, c'est Pour Sensi, chez Jean-Claude Lattès, toujours, qui est votre éditeur. Serge Bramly, autour de vous...
Trois génies également, en la personne d'Hippolyte Girardot,
universel,
de Guillaume Meurice et de Juliette Arnaud.
Oh là là, et en ce moment, l'actualité aussi a beaucoup de génies, hein, ça c'est sûr.
Ouf! Vous avez un chef, Christian Jacob, élu dès le premier tour hier, 62% bien joué.
Oui, on a failli disparaître.
Des extinctions de masse, la planète en aurait déjà connu 5. Certains scientifiques estiment qu'une 6e extinction a commencé.
Le journal de presque 17h17.
Et on commence par les titres.
La police écossaise pensait avoir arrêté Xavier Dupont de Ligonnès avant de se rendre compte que ça n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès, mais un certain Guy Joao.
Oui, en même temps, c'est bien tenté un nom portugais pour un type capable de bétonner une terrasse. C'était plausible.
Ce week-end, le Kenyan Eliud Kipchoge est devenu le premier homme à courir un marathon en moins de 2 heures.
Et pas mal, moins de 2 heures. Formidable performance. Hein. Pour donner une comparaison, Xavier Dupont de Ligonnès court toujours 8 ans aidé.
Et les brèves.
Et je peux vous dire que les brèves, j'ai mis la main dessus depuis longtemps sans les écossais.
C'est donc le non-événement du week-end, en réalité, la non-arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès.
Effectivement, en termes d'ascenseur émotionnel, cet épisode prend clairement la tête du top 3.
Ah bon ?
Après le match PSG-Barça en Ligue des Champions, et la fois où l'AFP avait affirmé, selon un généalogiste, Marine Le Pen descendrait de Mahomet avant de se raviser.
Ça n'a pas énervé que nous, l'humoriste Fabrice Eboué s'est fendu d'une petite vidéo.
Moi, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai invité des voisins, on a fait une soirée spéciale du pont de Ligonnès pour dire c'est incroyable, on était tous, wouh, on était. Là, je me réveille ce matin, là, vous voyez, j'ai encore de la merde dans les yeux, qu'est-ce que je fais ? J'allume pour me faire un week-end spécial du pont Ligonnès. C'est pas lui.
Affaire à suivre.
Oui, en politique, oui. Christian Jacob a été nommé à la tête de Les Républicains.
Je trouve ça très, très émouvant, un républicain qui gagne enfin une élection, je ne m'y attendais pas.
Non, c'est vrai, et dès le premier tour.
Et dès le premier tour. Christian Jacob, élu au premier tour, c'est comme si Andorre remportait la Coupe du Monde de foot parce que toutes les autres nations avait déclaré forfait.
Et donc, c'est la fête, on imagine, chez ses collègues du parti. Hein.
Comme des dingues. Écoutez, Jean-Pierre Raffarin.
Je n'ai pas renouvelé ma cotisation.
Donc vous n'y êtes plus.
Je vais partir des Républicains, évidemment.
Voilà. Évidemment. Et on salue Christian Jacob.
Suite à la polémique autour d'une mère voilée prise à partie par un élu du Rassemblement National dans un conseil régional.
Le ministre LREM, Jean-Michel Blanquer, a déclaré « Le voile n'est pas souhaitable dans notre société ».
Tandis que le député du RN, Nicolas Bay, a lui déclaré « C'était inutilement blessant et agressif ».
Ah oui, oula, Charline, on a interverti.
Non, c'est bien Jean-Michel Blanquer qui en rajoute une couche sur le voile et Nicolas Bay qui fait preuve d'une sorte d'empathie pour la mère voilée.
Je crois que dans ce pays, ce qui est encore plus opaque que le visage d'une femme voilée, c'est le positionnement des partis politiques sur les questions sociétales.
Internationales, la France a annoncé qu'elle allait cesser ses ventes d'armes à la Turquie.
Oui, si vous êtes kurde et que vous écoutez, attendez que les Turcs retrouvent à sec en matière de munitions. Oh, on leur en vend plus après, voilà. C'est bon.
On est bon. Sport.
Oui. On a beaucoup dit dans cette émission du mal de Pierre Ménès, le consultant Canal+, alors que c'est un type bien.
L'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, c'est formidable. Enfin, au niveau du jeu, les gens qui aiment le football, on ne peut pas dire qu'on s'est régalé. C'est un miracle.
Voilà, on a jugé cet homme mal, en fait. Voilà, il connaît vraiment, vraiment bien le football. Et puis c'est tout.
Et rappelons que ce soir, l'équipe de France de foot joue contre la Turquie.
Oui, ça fera au moins un terrain sur lequel les armes offensives françaises pourraient causer plus de tort aux Turcs qu'aux Kurdes.
Allez, des brèves.
Norvège, pour honorer son cheval décédé, elle le mange. Chez Findus, c'était sans doute pour honorer les chevaux qui s'en faisaient des lasagnes à l'époque.
Et la dernière.
Accusé de vol pour une bosse suspecte dans son pantalon, il avait juste un énorme pénis. Et je vous rassure, j'ai finalement été disculpé.
C'est vrai qu'on était très inquiets.
Oui,
17h26.
Les ailleurs aussi, hein. Pas que sur France Culture avec Léonard de Vinci. Hop, on va en chercher un petit
là,
peu.
Là, on parle gros pénis. Et là, on arrive, on ramène les gens sur Léonard de Vinci. Ça, c'est formidable. Et comme ils en avaient rien à foutre au départ, ils seront contents de savoir qu'il y a un documentaire sur la chaîne Histoire. Voilà, le 24 octobre à 20h40, Léonard de Vinci, l'homme universel. Et là, comme ça, hop, tout le monde va le voir. Et on va aborder ce premier sujet. Je suis avec vous avant d'en reparler, Serge Bramli. Avoir la liesse populaire hier à Tunis, l'élection du nouveau président Kais Saied paraît être une bonne nouvelle. Mais quand on regarde de plus près, ce constitutionnaliste droit dans ses bottes, surnommé Robocop, est favorable à la peine de mort. Il est contre l'égalité homme-femme dans l'héritage et pour la criminalisation de l'homosexualité. Cependant, il veut entreprendre une révolution légale en instaurant une démocratie directe et en renversant la pyramide de l'État. Voilà ce qui peut éventuellement soulever légalement les foules.
Ma révolution porte ton nom. Ma révolution n'a qu'une seule façon de tourner le monde.
C'est Jennifer.
De le changer.
Oui, c'est Jennifer qui chante la révolution. Alors, Serge Bramley, vous avez.
Hippolyte n'était passé à côté.
Ça date de quand, je sais pas.
On ne sait pas. Serge Bramley, vous
15e siècle, hein,
vous avez vécu les 12 premières années de votre vie en Tunisie. Mm-hmm. Alors, d'ailleurs, première question avec ce sujet. Serge Bramley, le nouveau président tunisien, Rasra ou Darka? J'ai envie de dire.
Bonne question.
Il y a eu un petit reportage qui était amusant. Vous voyez une image qui était assez parlante. Il y avait tout le monde réuni chez lui. Et sa femme, les femmes de la famille, ouais, tout à fait au fond contre le mur et extrêmement discrète. Il plaît, à mon avis, aux Tunisiens parce que, enfin, quelqu'un qui n'a pas l'air de sortir de la corruption. La corruption, mm-hmm, c'est un vrai problème en Tunisie. D'un autre côté, cette image rigoriste rassure. Je pense. Il ne faut pas attendre une révolution, je sais pas, ça me paraît très optimiste. Comme, oui. mais
révolution légale, attention.
c'est un terme que je comprends ça. Mal.
Mais, oui, ouais, nous aussi.
mais en dehors de ça, oui, je pense qu'il a été élu à 70%, je veux dire, c'est déjà formidable. Hein, mm-hmm.
Oui.
Donc il répond à quelque chose de très précis. Ça ne répond pas du tout à nos attentes. Mais c'est toujours un peu bizarre d'essayer de projeter sur un pays comme la Tunisie des attentes françaises, européennes,
oui,
etc.
Donc, oui, alors nous, on regarde ça avec un regard très occidental. Vous, en ayant un peu grandi là-bas, est-ce que vous avez un regard peut-être plus nuancé que le nôtre?
C'est
il y a
pas,
toujours
non, parce que la
Tunisie
que j'ai connue n'existe plus depuis longtemps. Là, dans mon enfance, en Tunisie, il y avait énormément de Siciliens, d'Italiens. Moi, j'ai appris l'italien presque en même temps que le français. De Maltais, d'Espagnols, de Juifs, de Chrétiens, etc. C'était un melting pot assez formidable. Mm-hmm. Et puis, tout ça a disparu d'un coup. Le problème maintenant, c'est qu'il y a des voix, je ne dis pas uniques, mais il n'y a plus autant de voix qu'avant sur différents sujets, disons. Mm.
Serge Bramley, avec nous et à vos côtés, Hippolyte Girardot.
Oui, eh ben alors oui, moi, on est lundi. Alors moi, lundi, j'ai une chronique. Alors donc, lundi, il faut que je trouve une idée. Et donc, je regarde tous les sujets du week-end et je me dis, ça y est, ils vont tous choper ça, j'ai plus rien, etc. Donc, qu'est-ce que je fais? J'allume la radio pour écouter ma boss à moins 5 et voilà ce que j'entends.
Il est 7h57.
Est-ce qu'on est sûr de ça? Il serait 7h57.
Non. Pardon. Il est bien 7h57 et ouais, vous nous parlez de l'élection de Christian Jacob à la présidence de Les Républicains.
Pop, Nicolas, qu'est-ce qui me prouve qu'il y avait bien une élection chez Les Républicains hier?
Ah, je me suis dit, mais ouais, Charline, elle a raison. On est sûr de rien. Rien du tout. Moi, qui suis-je d'ailleurs? Et où vais-je? Alors, ma tête a commencé à tourner et quand j'ai appris connaissance, justement, Christian Jacob était interviewé. Et quand je l'ai entendu, je me suis vraiment pincé pour être certain de ne pas avoir fait un saut dans le temps. De quoi il parlait? Du voile. Sérieux? Mais putain, Nico, Léa, c'est drôle parce qu'ils ont vraiment des prénoms de sortie scolaire, je trouve. Non, sans blague, non? Nico, Léa, ça suffit maintenant, hein? Alors j'en dis allô, quoi? Mais c'est ça le sujet, vraiment, en 2019, le voile. Mais dès qu'il y a voile au menu, c'est pas compliqué, tout le monde le prend. Parce que les injustices qui plongent les gens dans la misère, qu'on abandonne aux soldats de la République, des pompiers, les infirmières, les assistants sociaux, et désolé si j'en oublie vraiment, non, aujourd'hui, non, j'ai pas envie, c'est un peu trop lourd, ça. Et les connivences meurtrières entre les marchands d'armes, les hommes de pouvoir, oh non, je vais mettre des heures à digérer, laisse tomber. Et les mécanismes d'imposition qui réduisent des familles à se réduire, des entrepreneurs à ne rien entreprendre, des enfants à ne plus l'être, oh non, non, ça va me faire péter, je prends pas ça. Même ce menu bio, avec ses glaces qui fondent sur des fraises ultra pesticidées et ses légumes poussés dans une terre griffée, fausse glisovatée, franchement. Non, sans déconner. Tu veux vraiment que je mange ça ou que je meure? Non, j'ai pas envie de ça. Alors que le voile, c'est comme les frites. Voilà. Tout le monde en veut et tout le monde en demande. On sait pourtant que c'est gras, qu'il y a trop de sel et que quand les frites, pour être bien croustillantes, sont cuisinées à plus de 120 degrés, se développe alors l'acrylamide, qui est un composé chimique qui favorise largement le cancer. À peine fini leur cornet, on se dit non, c'est fini. On recommencera pas, c'est trop. Et désormais, brocoli vapeur, courgette boisée. Et pourtant, mais parce qu'on est lâche et on est comme ça. Le lendemain, on hésite. Oh, pas longtemps, non, on hésite. Une seconde. Et bing, donne-moi ce cornet. Et deux bières, pendant que j'y suis, j'en prends une pendant et une après. Et voilà. Et une bière qui, elle aussi, favorise largement, etc., etc. Voilà. Ces débats sur le voile sont à la politique ce que les frites sont à la santé, provoquent le cancer. Et à force, on se retrouve avec de la politique qui tourne en roue libre et toujours sur des roues voilées.
Hippolyte Girardot. Magnifique, Hippolyte.
Il a quand même dit du mal de notre produit national, celui-là.
Je le savais.
Ouais, c'est ouais. Ça, c'est moyen. Ça, c'est moyen, ça.
Alors, Hippolyte, respirez, parce que je sens que vous êtes énervé, là.
Ah ben, c'est comme ça, c'est comme un sprint,
parti,
en fait.
Allez, on est ensemble jusqu'à 18h sur France Inter. Respirez. I'm gonna put on an iron shirt and chase it down out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space. Into outer space to find another race. Satan is an evil old man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil. De Deville par Max Romeo. C'est un standard. Bien sûr, évidemment.
Ben oui.
Vous êtes sur France Inter. Serge Bramley est avec nous. Il est l'auteur de la biographie de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, une biographie, parue chez Jean-Claude Lattès. Et aussi Léonard de Vinci, l'homme universel, diffusé sur la chaîne Histoire le 24 octobre à 20h40. Serge Bramley, la grande exposition Léonard de Vinci, qui s'ouvre très bientôt. Il y aura des œuvres que vous, le spécialiste, vous n'avez jamais vues.
Oui, bien sûr, il y a des dessins, mais il y a même des peintures. La Dame à l'Hermine qui est au musée de Cracovie. Alors c'est vrai que j'aurais pu faire le voyage en Pologne, mais je ne l'ai jamais fait. Donc je serais ravi de la voir enfin, en vrai.
Niveau empreinte carbone, c'est mieux qu'elle vienne à nous, plutôt que tout le monde aille la voir.
Ça, certainement. C'est dommage pour Cracovie, oui, qui doit être très jolie par ailleurs.
Et concernant votre ouvrage qui est réédité et augmenté, vous l'avez augmenté de 100 pages, il fait 640 pages.
Près, oui.
Qu'est-ce que tout dernièrement, vous avez découvert de Léonard de Vinci?
Ce sont des petites choses. Il y a des choses qui intéressent les scientifiques, les techniciens, etc. On a fait beaucoup, beaucoup de progrès. D'abord, il y a eu des petites découvertes, des textes qui ont été exhumés, qu'on ne connaissait pas, qu'on ignorait. Notamment un texte du secrétaire de Machiavel, qui dormait dans une librairie en Allemagne, dans un volume que personne apparemment n'avait ouvert depuis 500 ans. mais pas que. Les vraies questions, elles sont techniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux comment peignait Léonard. Non pas sur simplement sa façon de peindre, mais sur l'attitude qu'il avait vis-à-vis des œuvres. Il en faisait parfois trois ou quatre en même temps, faire la même œuvre, hein, je veux dire. Il avait des élèves autour de lui, ou des assistants, des associés, et c'était des prototypes. Si vous voulez, ce qui a beaucoup étonné, c'est que dans des copies qu'on connaissait, des tableaux qui avaient la réputation d'être des copies tardives, même parfois, on s'est aperçu qu'il y avait, sous la couche picturale, les mêmes repentirs que dans l'original. Ce qu'un copiste ne pourrait pas voir. Et donc, on a fini par comprendre, ce sont les gens du Louvre, Vincent de Lieuvin en particulier, qui s'est dit, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que tous ces tableaux ont été en même temps, quand Léonard changeait quelque chose, et ben, l'élève ou l'assistant qui était à côté le changeait aussi.
Dites donc.
Et donc,
c'était l'usine.
Non, c'est pas l'usine, c'était.
C'est le Jeff Koons un peu de l'époque.
C'est pas comme ça que je l'entends.
Mais ça fait partie, en tout cas, des dernières découvertes.
Il faisait des prototypes. Ouais, ouais. Et c'est ça qui est totalement extravagant. Il était tellement perfectionniste qu'il voulait voir ce que ça donnait avant d'y mettre lui-même.
Serge Bramly avec nous. On va retourner dans la rue un petit peu.
Oui.
Parce qu'il aime ça d'aller dans la rue, ouais. Guillaume Meurice.
Gros big up aujourd'hui. Big up à la police écossaise et à la presse française. Petits anges partis beaucoup trop vite. Mais alors beaucoup trop vite. Où est-ce que vous allez les gars comme ça? À la rédac du journal Le Parisien, on compte 80 cas d'éjaculation précoce. Il y en avait plein les murs, jusque sur la une. Ils n'ont pas pu se retenir. Et big up évidemment à Guy Joao qui s'est quand même retrouvé l'espace d'un instant accusé d'avoir décimé sa famille. Il s'est retrouvé comme François Hollande avec le PS. Voilà. Ou comme évidemment Xavier Dupont de Ligonnès, le célèbre terrassier qui a inventé l'IVG post-naissance. Alors on connaît tous l'histoire. Hein. Xavier, il a un petit peu, voilà, il a eu un différend familial. Bon, bah vous savez ce que c'est. Non, mais voilà, il y a le gamin, il veut pas finir ses chocs à pic. Hein. Il court dans le TGV, on le coule dans le béton et c'est terminé. Et depuis, il est en cavale. Et c'est vrai que ça nous met le doute cette histoire parce qu'on se dit finalement, potentiellement, tout le monde peut être Xavier Dupont de Ligonnès. Moi, j'avais pensé à Hippo parce que je pense que c'est chronique, c'est un peu crypté à mon avis. Comme on pige rien, c'est pour prévenir ses complices. Dans le doute, j'ai quand même mené mon enquête dans la rue. Je suis allé ce matin dans les rues pour interroger un petit peu les gens. Est-ce que c'est vous, Xavier Dupont de Ligonnès?
Ah, c'est pas moi, non. Parce que là, il faut payer très cher, je pense, un chirurgien esthétique pour se transformer en d'un homme-femme.
Peut-être vous avez fait ça, Xavier.
Je vous en prie, monsieur Castaner.
Ah non, oh! Allez, c'est gratos, ça, c'est pas sympa. Oui, j'ai eu une époque avec la coupe mulet, c'est vrai, mais j'avais 12 ans. Hein, je regardais MacGyver hein, et Chris Waddle était à la mode, je vous le rappelle. Il faut remettre dans le contexte. Allez, je continue mon enquête.
Pardon?
Est-ce que c'est vous, Xavier Dupont de Ligonnès?
Moi?
Est-ce que c'est pas exactement la réponse que m'aurait fait Xavier Dupont de Ligonnès?
Alors là, non, je peux pas me mettre dans la tête d'un tel personnage.
Ah, mais il aurait répondu ça aussi, à mon avis. Hein. C'est vrai que moi, je me mets à la place de la police, quand même, de Glasgow. Le policier, il dit au mec, c'est vous, Xavier Dupont de Ligonnès? Le gars, il dit non. Ah, les policiers, ils sont pas cons. Hein, c'est exactement ça qu'il aurait dit, Xavier Dupont de Ligonnès. Bim, il t'embarque. Hein, même si tu ressembles autant au mec qu'un TGV à un faisan. Hein, y a pas de raison qu'un flic écossais soit plus malin qu'un chasseur français, finalement. Bon, poursuivons avec un autre suspect.
Moi, je lis sur un magazine économique qui s'appelle La Tribune. Oui. Je lis tous les jours. Même La Tribune, ils annonçaient. On a retrouvé Didier de Ligonnès, quoi.
Alors attendez, commencez pas à changer les prénoms parce que non, la presse s'est quand même pas plantée à ce point. Alors peut-être si sur CNews, j'ai pas bien regardé, mais à mon avis, il l'appelait Abdelkader Mohamed de Ligonnès parce qu'il faut les comprendre, c'est une question d'habitude. Hein. S'il y a un gars qui bute des gens, il peut pas s'appeler Dupont pour eux. Mais c'est bien Xavier, hein, restez concentrés. Allez, continuons avec ce lecteur donc du journal La Tribune.
Mais est-ce que La Tribune, il dit pas régulièrement des conneries quand même?
La Tribune, sincèrement, moi, c'est une source d'information que j'ai parce que je m'intéresse beaucoup à l'économie. J'ai pas, sincèrement.
Par exemple, parfois, ils disent qu'Emmanuel Macron est formidable.
Non.
Non.
Non. Non, non. Moins que les échos, mais si, quand même, un petit peu. Hein, c'est vrai qu'il y a aussi eu un emballement médiatique avec Macron. Tout le monde s'est enflammé, alors que le gars n'avait rien fait. En fait, Macron est une sorte de Guy Joao. Hein, on n'y pense pas, mais quand même intéressant. Bon, on trouve évidemment des conneries partout dans la presse. Hein.
Même dans le Figaro, j'ai lu, à propos des funérailles de Chirac, qu'il parlait de la cathédrale des Invalides. Tous les médias parlaient de la cathédrale des Invalides. Bon, il n'y a pas de cathédrale aux Invalides. Il y a l'église Saint-Louis des Invalides qui est une église. Vous voyez la qualité du personnel médiatique?
Alors si même le Figaro se met à écrire n'importe quoi.
Oui, même le Figaro.
Hein. Vous rendez compte dans quelle époque on vit, hein? Qu'est-ce qui nous reste pour avoir la vérité? Un tract de Christian Jacob? Voilà. Y a plus... Non, mais il n'y a plus que ça! Il n'y a plus que ça! D'ailleurs, en parlant de vérité, ce monsieur, il est persuadé que Xavier Dupont de Ligonnès s'est suicidé, mais qu'on n'a juste pas retrouvé le corps.
Bon, on l'a pas trouvé, c'est tout, hein. Bon, bah, c'est le bordel et le foutoir partout.
Vous savez, le soldat inconnu, on ne sait pas qui c'est. Hein. Pourtant, il y a des millions de gens qui viennent se prosterner devant lui sous le triomphe.
Ah, j'ai jamais fait le rapprochement, mais ouais.
On dit que c'est le bordel partout.
Ah bah voilà, c'est bien le bordel là du coup, mais finalement, il n'y a pas tort. Qui nous dit que le soldat inconnu, il n'avait pas buté sa famille? Ça se trouve, c'est un enfoiré, le soldat inconnu, on ne sait pas. Ça se trouve, c'était un monstre, il bouffait de la pizza à l'ananas, le gars. Il disait chocolatine. Le gars n'avait pas de limite, on ne sait pas, on ne saura jamais avec ce bordel qu'il y a partout. Hein, c'est pourquoi cette dame propose une solution plutôt radicale.
Moi, je suis pour la peine de mort là. Pour lui. Hein.
Parce qu'il a donné la mort, vous êtes pour lui donner la mort aussi?
Œil pour œil, dent pour dent. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui sont monstrueux et je leur trouve aucune excuse.
Et alors, est-ce qu'il faudrait l'enterrer dans une terrasse également?
Ah, complètement. Alors là, des mecs comme ça, oui.
Eh ben voilà, moi, je vous les trouve, les idées, je vous les trouve, les solutions pour faire avancer la justice. Même si, bon, j'avoue, j'ai pas bien avancé sur l'enquête ce matin. Alors, une chose est sûre, si Xavier Dupont de Ligonnès se cache dans la déontologie de certaines rédacs qui font la chasse aux scoops, eh ben, on le retrouvera jamais.
Merci, Guillaume Meurice.
Je vous en prie, à votre service.
Ah, et dire que demain, il y aura de nouvelles aventures. Restez avec nous. Serge Bramly, nous allons reparler de Léonard de Vinci, car même l'homme de Vitruve est resté bloqué à la frontière italienne, franco-italienne. Les autorités françaises avaient d'abord annoncé la venue de cette œuvre pour la grande exposition consacrée à Léonard de Vinci. La France et l'Italie avaient passé un accord, mais le tribunal administratif de Vénétie a bloqué le transfert. L'homme de Vitruve, c'est un petit peu le Neymar de l'art pictural, hein, ça ne se prête pas comme ça. Ça a mis les dirigeants italiens en pétard à la limite de l'incident diplomatique. Voilà comment ils parlent de la France maintenant.
Encore un vol de tableau qui a été fait la semaine dernière, toujours au musée de Rome. On pense que c'est le gardien du musée qui serait complice avec les conservateurs du musée, lesquels il a accusé les ministres de la culture. Et si vous voulez visiter les musées, dépêchez-vous, il reste encore deux tableaux.
Ce sont les inconnus, bien sûr. Alors, c'est un collectif qui s'appelle Italia Nostra. Qui a demandé à conserver les œuvres en Italie. Est-ce que c'est un peu une victoire des nationalistes italiens? Est-ce qu'il y a du souverainisme patrimonial?
Parce qu'on parle aujourd'hui de l'homme de Vitruve, mais ça a déjà commencé avec le prêt de l'Annonciation des offices de Florence, qui est un tableau en très bon état et qui a été restauré, qui aurait pu supporter le voyage, sauf qu'ils viennent de refaire les salles, donc ils n'ont pas envie de mettre de désordre dans leur musée. Et le problème, c'est sur les échanges. Vous savez, les musées, ça vit par l'expulsion temporaire, par échange.
On allait prêter Saint-Raphaël. Hein,
on allait prêter Saint-Raphaël. Donc, est-ce qu'on va continuer à prêter Saint-Raphaël?
C'est comme les vignettes Panini.
La réponse ce que j'ai entendu en Italie, c'est pas grave, les Raphaëls, on en a plein.
Comme ils se la pètent.
Donc, d'accord, donc ils n'auront pas nos Raphaëls, c'est pas très grave. Mais ce ne sont pas des décisions muséales, sauf pour celui des offices. Oui. Pour l'homme de Vitruve, l'affaire était entendue, ça n'est posé pas de problème. C'est un dessin qu'on voit extrêmement rarement, il est sorti tous les 5 ans, normalement.
Oui, il y a un protocole, c'est ça.
Il doit être
exposé 90 jours, et au-delà de ces 90 jours, on le remet au frais.
Pendant 5 ans. Et donc là, ils ont calculé qu'il serait au frais pendant 15 ans, puisque c'est 3 fois.
Ah oui.
Et c'est sur cette base de calcul que la Cour a décidé d'un... Mais là, encore une fois, on l'attendait, tout était prêt. Je ne sais pas ce qu'on va mettre à la place, il va y avoir un trou sur le mur.
C'est une décision politique plus que...
C'est une décision à peu près politique.
Ouais, politique.
C'est quoi la taille de cette œuvre?
On pourrait faire une très belle copie quand même.
Il y a des facsimilés formidables.
Bah oui.
Alors peut-être qu'on va mettre... Mais les facsimilés, ça ne rend pas, aussi bien fait soit-il, ça ne rend pas l'espèce de tour de main vraisemblable.
Vous l'avez vu?
L'homme de Vitruve, jamais.
Non, jamais.
Non, je me réjouissais.
Bien sûr, probablement, évidemment.
De français.
Les nombreux usages commerciaux de l'homme de Vitruve, est-ce qu'ils ont joué dans la notoriété de l'œuvre ou pas du tout? Quelle valeur elle a cette œuvre dans toute l'œuvre de Léonard de Vinci? C'est une des plus connues dans la hiérarchie des...
C'est parmi les plus connues. En même temps, ça s'appelle l'homme de Vitruve, donc le mérite devrait en revenir à Vitruve avant de revenir à Léonard. C'est lui qui a inventé le principe. C'est un dessin très spectaculaire. Léonard a passé une bonne partie de sa vie à rechercher non pas E égale MC2, mais l'équivalent pour les proportions. Et ce dessin, c'est un des innombrables travaux qu'il a fait sur les proportions. Il a fait des proportions sur le corps humain, mais enfin des études, mais également pour les animaux, mais également, ce qu'on sait moins, pour les plantes. Avec une idée de fractal, comme quoi les racines et le tronc aurait forcément tel développement par rapport à Feuille, etc. Et donc, ça fait partie du système et de l'intelligence de Léonard, même si l'idée, après tout, elle est de Vitruve à l'origine. Le dessin est très spectaculaire parce que, peut-être, est-ce que Léonard s'est représenté lui-même ? C'est pas impossible. Il n'y a aucune certitude, hein, mais c'est pas impossible. C'est une idée de l'homme qui est assez extraordinaire. Mmh. C'est-à-dire que lorsqu'on dit Léonard, l'homme universel, etc., touche à tout, sans parler de tout le reste, il était beau, il était sportif, il était sympathique.
Il est énervant quand même.
Il était drôle. Et drôle.
En plus, il s'est jamais marié. Il faisait d'excellentes vannes.
Il s'est jamais marié. Cet homme, oui, il a l'air assez triomphant et capable d'une sorte d'équilibre comme ça avec le monde.
Serge Bramley.
Heureusement qu'il était pédophile, sinon il aurait aucun défaut.
Alors, aujourd'hui, c'est quelque chose dont on ne parle pas trop.
Excusez-moi.
À l'époque, pédophile n'était pas un crime.
Oui, voilà.
En tout cas, la suite est dans le livre. Hein. Si vous voulez connaître un peu de la sexualité de Léonard, c'est dans la biographie parue chez Jean-Claude Lattès.
Vous parlez de tout.
Mais bien sûr.
Hashtag balance ton Léonard.
Ça y est, et là vous venez de coller un fou rire à Juliette, alors que c'est le moment de sa chronique. Ça, c'est vraiment pas malin. Vous voulez qu'on fasse quelque chose en attendant?
Je suis tellement prête. Alors, s'il y a bien une chose qu'on a compris ce week-end, c'est que les faits divers nous rendent zinzin. L'émotion nous empoigne, on essaye de comprendre, on fait le grand 8, le haut, le bas, le chaud, le froid. Et dans le cas de Xavier Dupont de Ligonnès, on se prend à être d'accord avec François Mauriac, c'est pas tous les jours, quand il écrit que la déception est un sentiment qui ne déçoit jamais. Merci François, même d'outre-tombe, vous êtes bien aimable. Mais si vous désirez, hors manège de fêtes foraines, comprendre ce que c'est qu'un fait divers, tout ce que c'est qu'un fait divers, on éteint les chaînes Tout Info, on ouvre ce livre qui porte un prénom féminin, Laetitia. Qui est Laetitia ? C'est une jeune fille qui menait une vie sans histoire avec sa sœur jumelle dans sa famille d'accueil à Pornic où elle était serveuse. En janvier 2011, elle est enlevée et il faudra plusieurs semaines de recherches intenses pour retrouver son corps martyrisé, elle avait 18 ans. Ce prénom, Laetitia, qui signifie « la joie » en latin, recoucou François Mauriac, devient une affaire médiatique qui tient la une pendant 6 semaines, avec des rebondissements jusqu'en août, ce qui est rare pour un fait divers. Pour rappel, Dupont de Ligonnès, ça a fait 10 jours à la une seulement. Ce prénom, Laetitia, devient une affaire ensuite d'État, après l'intervention du président de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui entraîne une grève des magistrats. Et ça, c'est pas courant, hein. Pour rappel, la magistrature, c'est pas exactement un cercle de dangereux gauchistes. Ainsi, François Mauriac fut élevé par un oncle magistrat du côté de Bordeaux. Pourquoi Yvon Jablonka, l'auteur de ce livre, Laetitia, se lance-t-il à écrire cette histoire ? Il dit... Il y a dans la vie de Laetitia 3 injustices. Son enfance, entre un père violent et un père d'accueil abusif. Sa mort atroce à l'âge de 18 ans et sa métamorphose en fait divers. Les 2 premières injustices me laissent désolé et impuissant. Contre la 3e, tout mon être se révolte. Et le fruit de sa révolte, c'est ce livre. Sauf que voilà, Yvan Jablonka est historien. Alors qu'est-ce qu'un historien vient faire dans cette histoire ? Eh bien, monsieur Bramley, il fait... Yvan Jablonka, son Léonard de Vinci. Léonard de Vinci qui voulait être homme universel, qui voulait tout comprendre, à qui dessiner, peindre, sculpter ne suffisait pas. Eh bien, Yvan Jablonka, il va faire la même chose, il va prendre son temps, il va investiguer après le temps de l'émotion et de l'aveuglement inévitable, et dans le cas de Laetitia, inévité. Et comme il veut témoigner pour Laetitia, et pas de Laetitia et de son assassin, il prend le temps pour apprivoiser la sœur jumelle, la sœur vivante, Jessica, pour apprivoiser son avocate, le procureur de l'époque, Xavier Roncin, qui ne veut pas pérorer et se mettre en avant avec cette affaire, grande affaire sensible, et ça nous change d'autres avocats qu'on ne nommera pas pour des raisons évidentes de sécurité, mais aussi les gendarmes, les journalistes, les travailleurs sociaux, tout le monde, et avec sa capacité de recul d'historien. Et en même temps, Laetitia est un des livres les plus poignants qu'il m'ait été donné de lire. Je pensais lire un portrait de victime, c'est aussi, c'est surtout le récit de la brève vie d'une femme libre qui, jusqu'au dernier moment, a dit non à son meurtrier d'une voix claire et forte et à qui cela a coûté la vie. Léonard de Vinci avait vu la guerre, il en était revenu horrifié de la bestialité des hommes. Yvan Jablonka, pour écrire ce livre, l'a vu aussi. Léonard de Vinci a également peint la Joconde, celle qui sourit malgré le fond crépusculaire derrière elle. Et lorsque vous lirez Laetitia, et vous allez le faire, vous sentirez son sourire timide, énigmatique, mais réel. Laetitia n'est pas un fait divers, c'était une jeune fille de 18 ans. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, merci beaucoup. Il est paru en poche, c'est
oui,
ça ?
Oui, il est en poche, donc il faut en profiter. Le monsieur s'appelle Yvan Jablonka, elle s'appelait Laetitia, et c'est chez Point.
Merci beaucoup, Juliette Arnaud. Vous écoutez France Inter. Nous allons repartir dans un peu de légèreté à 17h52 avec Serge Bramley. Et cette question, qui n'a jamais rêvé que dans son salon, ça sente la même odeur qu'au théâtre du Châtelet? Qui? Et ça, le théâtre s'en est rendu compte, ça, qui répond à la demande, à une forte demande. Et vient de créer une fragrance baptisée « Odeur du théâtre du Châtelet, acte 1 ». Qui fait qu'on en aura sans doute 2 et 3. Hein. Le flacon de 200 ml est disponible à la billetterie au prix de 120 €. Le théâtre privé se lance donc dans le parfum. Il est déjà arrivé, attention, que le parfum se lance dans le théâtre, rappelez-vous. C'est une vraie pub, hein, si oui, vous voulez dire, du parfum égoïste, donc citant le site de Corneille. Voilà. Alors dans le Parisien, il y a donc un article qui nous explique que le théâtre du Châtelet, pour pouvoir avoir des sous pour créer les spectacles, vend du parfum qui sent l'odeur de la salle.
Ça sent pas très très bon dans les salles de théâtre.
Ah non, Châtelet, si, c'est pas. On parle pas de la Comédie Française, on parle de Châtelet,
ça sent le neuf.
Alors, Serge Bramley, ce qui nous a beaucoup amusé, c'est qu'on a lu, donc vous êtes aussi romancier, qu'il y a une époque où vous avez écrit l'un ou l'autre texte relatif à des parfums de grandes marques. Alors, je me disais, est-ce que quand on écrit pour décrire du parfum, c'est du flan publicitaire ou c'est un vrai exercice de style? Maintenant, il y a prescription, vous pouvez le dire.
C'est un exercice de style très abusant, très difficile, très comprenant, très dur. Lorsque, surtout quand on le fait pour la 20e fois, avec le même parfum qui se décline dans nos toilettes, ou dans une fille, essence de... Enfin bon, bref. Ouais. Oui, c'est un bon exercice.
On fait comment? Moi, alors
j'adorais ça.
Mais dans ce cas de figure-ci, si on vous disait, voilà, pour le Châtelet... Serge, il nous faut un texte.
Le mettre des mots, c'est pas compliqué, puisqu'on. Le problème, c'est je vois pas à quoi ça peut ressembler l'odeur du théâtre du Châtelet. En général, les parfums, on les sent, on les renifle, on a une sorte d'argumentaire, on sait ce qu'il y a dedans.
Là, faut déjà être sûr d'avoir un nez avant de pouvoir écrire.
Il y a une note de tête, il y a un sillage, il y a un cœur.
Vous connaissez tous les
spectateurs. Ça sent. Attendez,
parce que le Louvre aussi vend des parfums. Il y a une création de parfum qui est associée à 6 œuvres pour redonner vie à ces œuvres à travers le parfum. Je cite l'argumentaire. Quel parfum irait bien à la Joconde, d'après vous?
Ça me fait penser à un dessin absurde qu'il y avait autrefois d'un restaurateur italien qui avait une pizza à Joconde et on lui disait vous l'avez appelée Joconde parce que c'est votre pizza, c'est un chef-d'œuvre, et il répondait non parce que ça a un goût de vieille toile.
Voilà, c'est très bien. Je pense qu'on peut rester là-dessus, Serge Bramley avec nous. Je vous laisse avec Alex Vizorek et le feu roulant de ces questions, mais nous sommes une équipe, avec vous.
On termine souvent l'émission par le Jupi-Proust, donc un questionnaire de Proust, mais à la sauce Jupiter. Mais ici, j'ai envie que ce ne soit pas Serge Bramley qui réponde, mais Léonard de Vinci. Alors, vous êtes Léonard de Vinci, d'accord, puisque vous le connaissez bien.
Je suis au porte-parole.
Et vous répondez à sa place. Léonard, sur une échelle de 1 à 10, comment trouvez-vous les tableaux de Michel-Ange?
Ah non, on peut dire 10 facilement, sans 10. Problème.
Léonard, sur une échelle de 1 à 10, comment trouvez-vous les tableaux de Jackson Pollock?
Je ne sais pas s'il aurait compris. Moi, je les mettrais aussi dans les 10.
Non, c'est pas vous, hein?
C'est ça le problème.
Attention. Quel homme politique français actuel préférez-vous, Léonard de Vinci?
La question est difficile.
Là, c'est pas évident. Là. Ouais.
Alors, c'est Léonard qui répond.
Bien sûr.
Ouais. Sûrement le président, parce qu'un peintre, ça a besoin de protecteurs.
Il est un peu faillot. Que vous répondriez à ça. Quel homme politique français actuel détestez-vous, Léonard de Vinci?
Ça, ils sont tellement nombreux.
Ceux qui ne donnent pas une thune.
Ceux qui ne donnent pas une thune. Non, ça ne s'arrête pas là. Il y a plus de motifs de...
Léonard de Vinci, est-ce qu'à la Renaissance, il y avait déjà des gens qui disaient « c'était quand même mieux au Moyen-Âge »
Oui. Pas en peinture.
Ah.
En peinture, on était persuadé à la Renaissance qu'on était dans un progrès. Il n'y avait pas de différence pour eux entre l'art et la science. La science progresse, l'art progresse. Mais question douceur de vie, oui.
Léonard de Vinci, combien de temps passez-vous sur votre smartphone?
Quelqu'un m'a envoyé il n'y a pas longtemps un petit dessin très rigolo prouvant que Léonard avait inventé le smartphone.
Non, mais il aurait aimé
c'est
ça.
Assez bien fait.
On est d'accord qu'il aurait aimé ça.
Sûrement.
Il aurait dit ceci est une révolution.
Que pensez-vous de Léonard d'O DiCaprio, Léonard de Vinci?
Ah, je sais qu'il a acheté les droits de plusieurs livres pour faire. Il paraît qu'on l'a appelé Leonardo à cause de Vinci.
Et la dernière, Léonard de Vinci, êtes-vous satisfait de Serge Bramley comme biographe?
Enchanté, non?
Merci beaucoup Serge Bramley.
Merci à vous.
D'avoir passé cette heure avec nous, c'était passionnant et tout aussi passionnant votre documentaire qui sera diffusé sur la chaîne Histoire le 24 octobre, notez-le bien, à 20h40. Léonard de Vinci, l'homme universel, et puis bien sûr il sera disponible en replay comme on dit. Oui bien sûr, j'ai vu ça passer dans le communiqué de presse, ce sera disponible ensuite plus d'une semaine en tout cas. Et puis la réédition augmentée de votre livre qui fait autorité, Léonard de Vinci, une biographie paru chez Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup Serge Bramley, merci beaucoup les amis, merci Juliette Arnaud, Hippolyte Girardot, merci Alex Vizorek, Guillaume Meurice. À demain où nous recevrons le caricaturiste suisse Chapat.
Rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire.